Allez, le pressing du matin avec Omblin Rocher et Paul Lassane. Et d'abord un coup d'œil aux unes de vos journaux avec cette lueur d'espoir qu'on retrouve donc partout. Un vaccin pour Noël, se demande avec un point d'interrogation la Dépêche du Midi ou encore Nice Matin. Enfin l'espoir, écrit Sud-Ouest, l'immense espoir d'un vaccin pour le Maine Libre et l'Union de Reims. Vous l'avez compris, ce mot espoir, on le lit partout, également dans le Télégramme, dans le Dauphiné Libéré ou en une des Échos. Le vaccin qui change tout, c'est le titre d'aujourd'hui en France. Le Figaro, plus prudent, préfère parler d'une promesse de vaccin qui se précise. Le journal La Croix, lui, s'intéresse aux commerçants. La bouée numérique, c'est le titre à la une. La survie de nombreuses boutiques dépend désormais des ventes en ligne. Quand Midi Libre lui s'inquiète du respect des mesures sanitaires actuelles. Confiné, point d'interrogation. Vraiment, se demande le journal qui observe beaucoup de monde sur la route et dans les rues, ce qui tranche totalement avec le printemps dernier. Et voici maintenant les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin, on va donc s'échapper un peu de l'actualité pour partir vers les profondeurs des océans.
Libération spéciale océan qui nous invite à mettre la tête sous l'eau et vous allez entendre une symphonie de biophonie, ça veut dire des sons d'origine biologique. On apprend que les crevettes pistolets sont équipées d'une énorme pince qui, quand elle claque, fait le bruit d'un revolver ou apparenté à un revolver, la proie en face. Aucune chance. Quand le homard bourdonne, la langouste possède un organe qui ressemble à une mandoline et elle peut se faire entendre au-delà du kilomètre, en Bretagne notamment. Les ondes sonores se propagent 4 à 5 fois plus vite dans l'eau. Elles peuvent voyager à des milliers de kilomètres. Le son pour se déplacer, il se trouve que les cachalots voient avec leurs oreilles.
Ça, c'est le cachalot.
Ça claque.
D'accord.
Ils utilisent l'éco-localisation chez les cétacés. Et chez le cachalot en particulier, il existe des dialectes. Chaque clan utilise son propre langage. Alors, on sait très peu de choses sur leur façon de communiquer. Il semblerait que les cachalots échangent des informations, se coordonnent pour chasser. Beaucoup de mystères entourent également le chant des baleines à bosse.
Vraiment. Ah. Écoutez.
C'est un chant qui est étudié depuis les années 60, difficile à percer. Le problème aujourd'hui, c'est l'anthrophonie, c'est le bruit des hommes. Les bateaux de pêche, les sonars militaires, l'installation des câbles, les jet skis, véritable fléau qui détruisent le milieu de vie des dauphins, c'est ce que dit Hervé Glotin, enseignant-chercheur à l'université de Toulon, interrogé par Le Quotidien. Les animaux marins subissent des souffrances auditives, mais sachez qu'en Europe désormais, la pollution sonore est intégrée dans les études d'impact environnemental obligatoire, c'est-à-dire dans Libération édition spéciale Libé des océans.
Libé des océans, le son des océans ce matin sur Europe 1, c'est fascinant. C'est fascinant d'entendre comme ça le son du cachalot. Le homard bourdonne, alors ça
le
je ne savais pas.
Le homard bourdonne. Et la langouste a une mandoline dans l'abdomen.
Et la crevette fait un pistolet.
Et la crevette fait un bruit de pistolet.
Ça, c'est plus
très bien la crevette, Omblin.
Ouais, très bien la crevette.
Paul, on va aller à Marseille.
Oui, je suis sûr que cette histoire va parler à beaucoup de parents qui nous écoutent ce matin, car c'est une mesure plutôt surprenante qu'a dû prendre la directrice d'une école primaire de la région cette semaine. Dans la Provence, on apprend que Sana Méziane vit depuis la rentrée de septembre des matinées plutôt difficiles. Alors, rien à voir avec la situation sanitaire, non plutôt à cause de parents indisciplinés qui, chaque jour, alors qu'ils sont en retard pour déposer les enfants, eh bien, ces parents-là, ils n'en font qu'à leur tête. Je la cite. Des parents qui arrivaient après la sonnerie jetaient littéralement leurs enfants par-dessus la grille de l'école. Alors, je vous laisse imaginer, je vous laisse vous projeter. Alors, tout le corps enseignant de l'école s'est saisi du phénomène. Tous les parents, un par un, ont été recadrés. Eh bien, sauf que le rappel à l'ordre n'a servi à rien puisque les parents ont évidemment continuer. Du coup, il y a quelques jours, la directrice a pris les choses en main et elle a attaché deux affichettes sur le portail de l'école, dessus deux dessins qui montrent très clairement, je vous conseille d'aller voir sur internet, un adulte lancer un enfant par-dessus la grille avec en dessous deux messages « Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail et quand je suis en retard, je reviens à 10h ou à 15h ». Évidemment, les affiches ont fait leur effet, bravo elle. L'école n'a plus eu à déplorer aucun lancer d'élèves depuis. Mais la directrice les laisse placarder pour éviter toute récidive. On les laisse comme une sorte de rappel, dit-elle. C'est à lire dans la Provence.
Quand la maîtresse d'école doit faire la police aussi pour les parents indisciplinés. Oui, ça s'appelle vraiment jeter ses enfants à l'école au sens propre, là, pour le coup. Ne soyez pas en retard. Voilà, ça évitera de blesser vos enfants en les jetant par-dessus les grilles. On va terminer avec une question que tout le monde se pose. Que va devenir Donald Trump? Alors, pour l'instant, il s'accroche bien à son siège, on l'a compris. Mais après, que fera-t-il après la Maison-Blanche? Est-ce qu'il tente tentera de prendre sa revanche dans 4 ans. Bon, il aura 78 ans, hein, c'est pas si sûr. Mais le Parisien aujourd'hui en France raconte ce matin que, en tout cas, la succession est prête. Les enfants, Trump, se préparent et pourraient reprendre le flambeau. Alors, dans la famille Trump, je demande les deux fils. Il y a Donald Jr., il a 42 ans. Eric, 36 ans. Tous les deux, en ce moment, mènent la bataille en justice, la bataille des recours contre cette élection. On a vu Donald Jr. prendre la parole la semaine dernière pour dénoncer les fraudes. La machine à tweets fonctionne aussi chez les deux. Et puis, dans la famille Trump, je demande la fille. On la connaît mieux, avec sa chevelure blonde. Ivanka,
son mari, hein.
39 ans, qui est haute conseillère du président à la Maison-Blanche. Elle a vraiment un titre. Et elle n'est visiblement pas tout à fait sur la même ligne que ses frères. En tout cas, c'est ce que croit savoir le Parisien. Avec donc son mari dont vous parliez, Jared Kushner, qui est lui aussi conseiller du président. Il semble faire partie de ceux qui tentent de convaincre le président de renoncer. Mais ils ont certainement envie de prendre la suite. C'est ce que dit Nicole Bacharan dans cet article, la spécialiste des États-Unis. Il faut dire que l'Amérique adore les dynasties. Il y a eu les Kennedy, les Clinton, les Bush. Ivanka aurait la politique dans la peau. Elle n'a aucune envie de retourner à ses activités de patronne d'une marque de chaussures, hein, sa marque. Elle a fait campagne très activement. Elle a levé 35 millions de dollars à elle seule en allant voir notamment les mères de famille dans les banlieues américaines. En revanche, son défaut, c'est que c'est une piètre oratrice, le Parisien.
Mais en politique, c'est un peu gênant.
Oui, c'est ça.
Contrairement à ses frères, qui, eux, ont le sens du show et des tweets, et qu'on voit aussi dans les shows télé. Alors, on pourrait les revoir dès les mi-termes, les élections parlementaires dans 2 ans, s'ils avaient envie de se présenter pour devenir députés, notamment dans leur fief en Floride. Voilà. À suivre. La dynastie Trump.
C'est pas terminé.
On n'en a pas complètement terminé avec les Trump, visiblement. Voilà, rideau sur ce précédent.